Bonjour à tous et merci de nous accueillir dans votre collège. Nous sommes donc aujourd'hui à Montréno, au collège Marc Seguin, à l'occasion de la Journée nationale de la laïcité le 9 décembre. Cet événement existe depuis 2011 et cette date, le 9 décembre, coïncide avec le vote de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Nous traversons une période depuis les événements de 2015 notamment où cette thématique de la laïcité est débattue et discutée quasiment quotidiennement par tout type de personnes de tout âge. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'en parler avec Jacqueline Costalascu. Jacqueline, comme vous avez demandé que l'on vous appelle, vous êtes sociologue au CNRS. Vous êtes également docteur en droit. Vous avez dirigé l'Observatoire des statistiques de l'immigration et de l'intégration et vous avez été membre aussi de la commission Stasi en 2003 sur la laïcité. On en parlera tout à l'heure. Alors la laïcité, justement, il en est question aujourd'hui. Et avant de revenir sur votre parcours pour le début de notre propos, on va poser peut-être les bases de cette discussion avec quelque chose de simple. Comment on définit la laïcité, s'il existe une définition officielle?
Bon, alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci aux enseignants d'être là, aux personnes d'ici. Merci à Radio Ondaine. Quand je suis arrivée, je me suis dit, c'est dommage, c'est l'hiver, mais vous avez un beau collège. Il y a plein d'arbres autour. Hein? Il y a des pelouses. C'est... Oui? Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'élèves qui auraient aimé, par exemple dans la région parisienne, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas cet espace, et c'est bien. Alors, vous êtes tous élèves de 3e ? Ouais. Bon. Beaucoup sont aux délégués élèves ou... Non, il y en a qui ne le sont pas, mais ça ne fait rien, c'est bien, mais c'est bien d'être délégué élève. J'espère que à un moment donné, vous le saurez tous, parce que ça apprend beaucoup de choses d'être délégué élève. Alors la laïcité, hein, et ben c'est très simple, c'est tout à fait limpide, et on verra tout à l'heure que plein de gens veulent faire dire n'importe quoi à la laïcité parce qu'ils ont intérêt à faire dire n'importe quoi à la laïcité pour la combattre. Alors, la laïcité, c'est un principe d'autonomie, d'indépendance entre le politique et le religieux. Et c'est une indépendance réciproque. C'est-à-dire que l'État n'a pas à entrer, se mêler des affaires religieuses, et tout ce qui est religieux n'a pas à dicter sa loi à l'État. Ça veut dire aussi que vous êtes citoyen, quelle que soit votre religion, vos convictions, vous pouvez croire, ne pas croire, être de telle religion ou de telle autre, vous êtes citoyen. La citoyenneté n'est pas attachée à une religion. Ça veut dire aussi que, par exemple, ce qu'on appelle la loi civile, tout ce qui va régir votre vie personnelle ne va pas dépendre de la religion. Vous pouvez choisir d'appliquer des règles de la religion dans votre vie privée, mais la loi pour tout le monde est une loi qui ne dépend pas de la religion aujourd'hui. Et puis d'autre part, quand vous êtes dans une école publique, comme dans toutes les institutions, les personnes qui représentent l'État, elles n'ont pas à imposer leurs convictions. Pourquoi ? Parce que c'est un principe d'égalité. Si, par exemple, je vous disais, moi, j'ai telle religion, je crois ou je ne crois pas, et que je suis dans la situation de vous parler et là, vous écouter, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça ne serait pas juste, je ne respecterai pas ce que vous êtes. Votre foi vous appartient, et quelqu'un qui représente l'État n'a pas à vous imposer une foi, une conviction. C'est pour ça, c'est ce qu'on appelle la neutralité. Et puis, ça veut dire aussi qu'il y a plein de choses que l'on est libre de faire dans sa vie privée, mais dès que l'on est dans un espace public où il y a d'autres personnes, à ce moment-là, il y a une grande règle dans la laïcité, c'est celle de la, vous connaissez le mot compatibilité, la compatibilité des libertés. C'est idiot de dire « c'est mon droit, c'est ma foi, c'est mon choix ». C'est idiot. Et les autres? Et la laïcité intervient quand on fait intervenir les autres. Vous pouvez exprimer des choses qui vont heurter d'autres personnes. On y reviendra. Donc vous voyez, c'est un principe d'indépendance, d'autonomie, de tout ce qui est l'État, les institutions, la loi civile, et pour le reste, liberté, qui correspond à la liberté de conscience. Et qu'est-ce que c'est que la liberté de conscience ?
Alors on définira ça un peu plus tard. Et c'est vrai que lorsqu'on rentre ici dans le collège, vous avez remarqué, il y a la devise, cette devise-là de la République française, liberté, fraternité, égalité. Et il y a aussi deux drapeaux, le drapeau bleu, blanc, rouge français et le drapeau européen, on va dire ça. Et il est intéressant de noter, peut-être tout à l'heure, on parlera finalement de cette notion de laïcité en France et en Europe. Pour revenir à vous, pour ce début de rencontre, vous êtes docteur en droit et puis vous travaillez sur la laïcité, commission Stasi. Vous avez travaillé ici avec des associations, l'association Le Cercle Condorcet à Lyon. Pourquoi ce choix de travailler sur la laïcité ? Pourquoi ce choix de carrière ? Si l'on parle de choix de carrière ou de conviction.
Carrière, ma carrière. Bon. Bah, d'abord parce que c'est vraiment... moi, je suis tout à fait dans une famille qui a aidé à créer la laïcité. Mon arrière-grand-père a été parmi les personnes qui ont fondé la laïcité en France. Et elle risquait beaucoup parce que, évidemment, il y avait à l'époque l'Église catholique qui était dominante. Et donc, c'était pas simple de dire que l'Église catholique avait le droit d'exister comme les autres. Comme les autres convictions, comme les autres religions. Mon grand-père a travaillé avec Jean Jaurès, qui a été député et qui a défendu la loi du 9 décembre 1905 sur ce qu'on appelle une des lois fondatrices de la laïcité. Puis je suis d'une famille de résistants, d'une famille qui a beaucoup risqué pour l'indépendance de l'Algérie. Et puis c'est-à-dire c'est des questions de conviction, de principe. Et aujourd'hui, ça fait 14 ans que je travaille dans le cadre du dialogue euro-arabe avec l'UNESCO, qui est donc un organisme de l'ONU. Et je travaille avec des amis tunisiens, marocains, égyptiens, y compris sur les manuels scolaires, pour arriver à plus de tolérance, plus d'ouverture. Voilà, donc c'est aussi un chemin personnel. Et la laïcité, c'est la liberté. Donc ça, j'y tiens. Et donc pour moi, comme pour les Français qui se sont battus pour la laïcité, parce qu'on ne voulait plus de guerre de religion, eh bien, la laïcité, c'est la liberté, et on le verra avec des exemples et avec vos questions.
Alors, on peut commencer ces questions-réponses. Bien parler devant le micro. Allez-y, on vous écoute.
Est-ce que vous serez choqué si je m'assois sur la table pour vous voir tous ? Ça ne vous choque pas ? Bon. Voilà. Ah,
le président des USA pourrait-il être musulman, prêter serment sur le Coran ?
Alors, il pourrait être musulman, oui, pourquoi pas. Pour le moment, c'est mal parti. les États-Unis disent qu'ils sont un pays laïque, mais ils ne le sont pas tout à fait comme en France. C'est-à-dire qu'ils posent la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire, de ne pas croire, et de changer de religion, il le pose comme un principe de liberté. Mais l'égalité, pas tout à fait. Et notamment, il y a toute une tradition aux États-Unis où... vous avez déjà entendu parler des WASP ? White, anglo-saxon, protestant. C'est-à-dire qu'il y a toute une tradition protestante blanche et avec, comme tradition... on prête serment sur la Bible. Mais il y a des mouvements très intéressants aux États-Unis pour demander, et ça s'est fait dans des États, Mais ça ne s'est jamais fait avec avec des présidents américains. Même Kennedy, qui n'était pas protestant mais catholique, il a la Bible. Bon, il a pu prêter serment sur la Bible. Mais théoriquement, on pourrait faire valoir dans la Constitution américaine que ce qui compte, c'est de prêter serment. L'important, c'est de prêter serment. Voilà. Dans certains États américains, on a pu prêter serment sur, par exemple, un Coran, mais pour être juré en justice. Mais pour le moment, vous voyez, là, actuellement, un président américain musulman, c'est mal parti. Il n'y a même pas 1% de la population aux États-Unis qui est musulmane. C'est 80 ou 70%.
Alors peut-être, là on parlait des États-Unis, ce qui peut être intéressant, c'est aussi essayer de trouver le nombre d'États dans le monde officiellement laïcs. La France, c'est sûr. Alors,
et quel a été le premier pays laïque au monde ?
Quel a été le premier pays laïque au monde ?
Ben, il y a 12 pays laïcs, je crois. Le Canada.
Il y a la Turquie.
Oui. La Turquie de Kemal Atatürk, ouais.
Le Mexique.
C'est le premier pays. Merci. C'est le premier pays au monde avant la France qui a introduit la laïcité. Et vous savez pourquoi ? Vous avez une idée de pourquoi le Mexique ? Eh ben, les religieux catholiques étaient du côté des conquistadors. Donc, exactement, de ceux qui avaient fait la conquête. Et donc, avec son indépendance, le Mexique a en effet proclamé la laïcité. Et après, ça a été la France, mais la France a poussé la laïcité beaucoup plus loin parce que le Mexique a proclamé la laïcité vraiment contre l'Église catholique à cette époque-là.
Quel autre pays retrouve-t-on dans cette liste de pays officiellement laïcs ?
Par exemple, le Portugal. La Belgique, c'est un peu particulier. Ils ont des piliers. Ce qu'ils appellent. Mais la Suède, maintenant, est un pays laïque depuis l'année 2000. Disons qu'il y a des pays. Vous demanderez à votre professeur d'anglais. Vous avez tous. Oui, mais vous lui demanderez de travailler au cours d'anglais la notion de sécularisation qui a précédé la notion de laïcité. Où il y a bien une séparation entre le politique et religieux, mais pas avec l'idée à la française de traiter à égalité toutes les convictions. En Angleterre, quelle est la religion de la reine ?
Protestante.
C'est l'anglicanisme qui est lié au protestantisme.
On va continuer avec cette série de questions. Le micro, vous l'avez. Ici, une question au premier rang.
Madame, tout à l'heure, vous nous parliez de la guerre de religion. Oui. Alors, comment se fait-il que dans notre société, les cloches des églises sonnent à toute heure, ponctuent les cérémonies, messes, alors qu'il a été demandé à la mosquée de Saint-Étienne de ne plus sonner la cloche et l'appel à la prière ?
L'appel à la prière.
Oui, l'appel à la prière. Oui, il n'y a pas des cloches, en effet, comme dans les églises. Alors, ça n'est pas... Pardon. Je ne connais pas la réglementation précise pour la mosquée de Saint-Étienne, mais il n'y a pas... Les cloches ne sonnent pas à toute heure. Il y a une réglementation très stricte pour les sonneries de cloches des églises. Par exemple, dans les églises, si vous appliquiez les règles d'autrefois... On commencerait au lever du soleil, d'ailleurs comme l'appel du muezzin, c'est-à-dire au moment où le soleil se lève, c'est la première prière. Eh bien ça, pour le repos de nos concitoyens, on interdit aux églises de sonner à ce moment-là. Autrefois, les églises sonnaient non seulement à toutes les heures, mais il y avait en effet des cérémonies. Alors, aujourd'hui, il y a des sonneries, par exemple le dimanche, ou un samedi au moment, ou bien lorsqu'il y a un mariage ou un enterrement, et ce n'est même pas nécessaire. Donc ça ne sonne pas du tout à toutes les heures. Ils ont énormément de réglementations qui leur interdisent de sonner les cloches, par respect pour les autres. Et c'est intéressant votre question. Il y a un pays comme la Norvège, qui est un pays qui n'est pas laïque. Donc, protestant d'abord, et un peu catholique, et maintenant un peu musulmans. Mais ils aiment la liberté en Norvège. Donc, ça a donné quoi ? Une véritable bataille, ce qu'on a appelé la guerre des décibels. Ça, c'est pour Nicolas. Alors, les catholiques, comme il n'y avait pas de la laïcité, il n'y avait pas de réglementation, les catholiques n'arrêtaient pas de sonner leurs cloches pour faire plus de bruit que les protestants. Les protestants ont augmenté le son, parce que vous savez que maintenant, dans les cloches, c'est souvent plutôt des haut-parleurs, même chose pour le muezzin ou le muezzin, ça dépend comment vous le prononcez, ou l'appel à la prière, il ne monte pas sur son minaret, et puis comme ça, c'est enregistré, hein, et ça fait du bruit. Donc, chacun augmentait le son. Si bien qu'un jour, il y a des gens qui étaient athées, qui ont loué une voiture avec un haut-parleur, et ils ont traversé la ville en disant très fort, Dieu n'existe pas. Les gens qui étaient athées, qui ne croyaient pas en Dieu. Ils se sont arrêtés, ils se sont arrêtés au bout de 2 jours parce qu'eux étaient respectueux des autres. Et ils ont voulu dire au gouvernement, vous voyez l'absurdité de votre système. Vous obligez à augmenter le son parce que chacun veut exister contre l'autre. Ils ont demandé la laïcité, ils ne l'ont pas obtenue, mais au moins des réglementations pour que, donc, il n'y ait pas plus, enfin, c'est pas au-delà d'un certain nombre de décibels. Dans la laïcité, c'est pas ça, tout le monde se plie à des réglementations. Les églises n'ont absolument pas le droit de sonner des cloches n'importe quand.
Alors peut-être justement aussi, on parle de mosquées, d'églises, peut-être quelque chose à éclaircir, hein. On voit ici et là des mosquées se construire avec des fonds qui ne proviennent pas de l'État français, et l'on entend aussi de temps à autre des personnes qui disent « mais tenez, il y a tant d'églises et il y a moins de mosquées, comment on fait dans tout ça ?»
Allez, vous voulez qu'on rase les églises pour qu'il y ait aussi peu d'églises que de mosquées ? Mais si, bon, ben voilà, ça aurait été idiot. Pourquoi ? Et ça, c'est très important. À partir de 1905, tous les lieux de culte sont à égalité. Et puis après, je vous dirai comment, sur quoi ils sont à égalité. Mais avant, en France, il existait quelque chose. Il existait des églises, des temples, des synagogues, depuis des siècles. On ne va pas les raser. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait partie de notre patrimoine commun et c'est aussi le vôtre. Vous avez le droit d'entrer à la cathédrale, etc. Vous avez le droit, sauf, alors parfois ils ferment les portes pour des raisons tout simples, ils ont peur des vols. Bon, en dehors de la peur des vols, vous avez le droit d'entrer, ce sont des monuments, donc ça vous appartient, les églises. Vous appartiennent. Il y a des questions de sécurité, mais les questions de sécurité, ça n'a rien à voir. C'est à tout le monde. Donc, vous voyez bien que c'est idiot de dire il y a plus de, pardon, de plus d'églises que de mosquées. Par ailleurs, alors, un petit, à votre avis, il y a combien de personnes en France qui disent avoir une religion ? Ah oui, mais beaucoup, ça veut dire
40 millions.
On va faire en pourcentage, ça va être plus simple. Combien de pourcentage de personnes déclarent qu'elles ont une religion ?
60% ?
75 ?
80 ?
90 ?
100 ?
60% de la population en France est, écoutez, indifférente à la religion. 60% de la population en France est indifférente à la religion. Et parmi les 40% qui restent, il n'y en a pas plus de 8% qui sont des pratiquants réguliers d'une religion. Simplement, quand vous avez des convictions fortes, vous avez envie de les rendre visibles. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne croit qui sont attachés à une religion parce qu'ils veulent se rendre visibles sur leur religion. Vous comprenez ça ? Et les autres ? Parce que les 60% qui sont indifférents à la religion, ils ne sont pas visibles. Ils demandent simplement à être libres et traités à égalité, mais ils ne sont pas visibles. Ils n'ont pas de revendications particulières, ni sur le plan du vêtement, ni à la cantine, ni avec des sonneries, etc. Ceux-là, ils ne demandent rien, ils sont 60%. Je tenais à ce qu'on le dise. Voilà.
Alors, on peut continuer avec cette série de questions. Des bras se lèvent pour demander le micro.
Et tous, vous intervenez, c'est bien.
Vous qui travaillez depuis longtemps sur la laïcité, comment a-t-elle évolué ?
Ouh, quelle belle question ! Merci. Belle question et question difficile. Parce que la laïcité s'est fondée sur la déclaration des droits de l'homme. Hein ? Et c'est lié, ça me permet de dire une chose, en même temps que la Révolution française, avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a affirmé l'égale dignité des personnes. Et vous allez voir après comment c'est difficile à mettre en œuvre dans la réalité. Vous avez raison. L'égale dignité des personnes. Quelle que soit leur croyance, c'est ça le fondement. Le fondement de la laïcité, c'est l'égale dignité des personnes, quelle que soit leur croyance. Et on a créé en même temps l'état civil laïque. Vous savez ce que c'est que l'état civil ? Où est-ce qu'on trouve le registre d'état civil ? À la mairie. Donc, le registre d'état civil, c'est le registre où toutes les personnes sont notées de la naissance à la mort, quel que soit leur rang social, c'est comme ça que l'on disait en 1792 sous la Révolution, quel que soit leur sexe et quelle que soit leur religion. Il y a actuellement beaucoup de pays dans le monde qui n'ont même pas d'état civil. Et c'est pour ça que c'est si difficile pour les migrants de faire valoir leurs droits. C'est parce qu'ils arrivent et ils n'ont même pas d'état civil. Vous savez que c'est grâce à la notion d'égale dignité des personnes que, il y a la réponse, grâce à l'égale dignité des personnes, que les protestants sont devenus des citoyens français et que les juifs sont devenus des citoyens français. Alors, je réponds à votre question. Une fois qu'on a posé le principe, eh ben, les hommes sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire dans leur histoire, et vous le verrez avec vos professeurs d'histoire, il y a eu des moments où, par exemple, l'Église catholique a été plus importante qu'à d'autres moments. Il y a eu des moments de vraie guerre sur ces questions-là. Il faut aussi le dire. Théoriquement, ça voulait dire que l'égale dignité homme-femme. Oh là là, c'est pas encore acquis. C'est acquis dans les principes, mais pas tellement dans les faits. Et moi, j'ai connu des militants laïcs formidables sur le plan des libertés, sur, ben oui, qui se battaient pour l'indépendance, des, par exemple, de l'Algérie, etc. Ben oui, mais ils étaient sexistes. C'est très long. Et c'est exactement votre question. Je vous en remercie. C'est-à-dire, on pose des principes, mais il y a toute la distance avec ce qu'on arrive à faire dans les faits. Et vous, là, les amis, vous êtes jeunes, j'espère bien que vous allez construire une société où il y aura un peu plus d'égalité femmes-hommes et un peu plus d'égalité, quelles que soient les convictions des personnes, quelle que soit leur religion.
Alors, vous parliez d'état civil, on parle de carte d'identité, mais on parle de l'identité aussi d'une personne. Et l'identité se fait au fil des années, des expériences, et l'identité d'une personne est propre à celle-ci. On peut croire en quelque chose, en une religion, on peut ne pas croire, et on peut également changer.
Voilà. Alors, je vais vous donner des exemples. Il y a eu quelqu'un qui s'est appelé Lustiger, qui était né juif polonais, et qui en France est devenu l'un des, on va dire, l'un des plus hauts gradés de l'Église catholique. C'est ça la laïcité. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez croire, vous pouvez ne pas croire, mais vous pouvez changer de religion. Ça ne vous dit pas quelque chose ? Changer de religion, dans certains pays, c'est considéré comme un crime puni de mort. Ça s'appelle l'apostasie. Actuellement, il y a des gens qui sont décapités et punis de mort parce qu'ils ont voulu se convertir à une autre religion ou ils ont abandonné leur religion et ils se sont déclarés athées, par exemple. En France, c'est possible. De même qu'en France, le blasphème est possible parce qu'on peut critiquer les idées. Par contre, on protège les personnes. Vous pouvez dire tout sur les idées, ça va venir, et sans bâiller, ce sera mieux. Et ça, ce qui est intéressant, le blasphème, il y a des gens qui actuellement, vous avez entendu parler quand même de Charlie Hebdo, il y a des gens qui ont été tués simplement parce qu'ils ont fait des caricatures. Eh bien, dans un pays laïque, ce n'est pas acceptable. Par contre, si on injurie quelqu'un, si on le diffame sur la question de la religion, on peut aller en justice et faire condamner. C'est-à-dire que la critique des idées est libre, mais on protège les personnes. Et alors, oui, sur l'identité, on reviendra.
On reviendra un peu plus tard. Alors, on continue encore avec ces questions. Le micro est à vous.
En tant que femme, avez-vous eu des difficultés à gravir des échelons et en arriver là où vous êtes ?
Alors là, on sort un peu de la.
Oui, mais enfin, c'est lié.
La laïcité, mais on lit ça et puis vous donniez l'exemple tout à l'heure de ces personnes sexistes.
Dans un pays. Vraiment, mademoiselle, dans un pays profondément laïque, j'aurais pu espérer qu'être homme ou femme, ça ne changeait rien à la façon de faire des études, à choisir ses études, et ensuite à avoir, comme dit Nicolas, une carrière. Et ça rejoint la question de votre camarade. Il y a eu des... Par exemple, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on régresse par rapport à ce que j'ai connu dans les années 70 et 80. Et quand j'ai fait mes études, nous étions très peu de filles à la faculté. Hein, on disait la faculté à l'époque. Le résultat, à cette époque-là, on était très repérées parce que des filles qui faisaient des études jusqu'au doctorat, on était même, j'allais dire, chouchoutées. On était, parce qu'on était peu nombreuses. Puis quand il y a eu progressivement presque autant de filles que de garçons dans les études, alors là, plus du tout chouchouté, plus du tout, et même c'était plutôt la concurrence. Et la concurrence est devenue violente. Et c'est une concurrence qui est devenue sexiste. Et moi, je l'ai vu chez mes étudiants. Je leur disais, mais vous êtes complètement fous. Vous avez besoin, en tant qu'étudiant homme, d'être à ce point violent à l'égard des filles. Moi, je vais vous raconter comment, dans ma jeunesse, quand j'étais étudiante, il y avait beaucoup plus de respect. Et on respectait la dignité. Par contre, il y avait des inégalités du point de vue du droit. Alors aujourd'hui, on est dans la situation, et ça c'est vraiment intéressant, hein, et ça concerne autant les garçons que les filles, on dira peut-être pourquoi, parce qu'une société dans laquelle il n'y aura pas de mixité, pas d'égalité, franchement c'est pas drôle non plus pour les hommes, ils sont condamnés à être violents, franchement. Ils sont condamnés à être grossiers, ils sont condamnés à être lourds. Ben oui, je vois que ça parle aux filles. Bon, et au moment où on s'est vu avec de plus en plus, si vous voulez, de filles dans les métiers, etc., parfois, on a eu des situations plus violentes que celles que j'ai connues, moi, quand j'étais plus jeune. Mais c'est parce qu'on était, si j'ose dire, dans la rareté. Et les autres femmes, elles étaient où ? À la maison, femmes au foyer. Donc, ce n'était pas la même. Par contre, les femmes au foyer, c'était quoi ? Ben, si jamais elles se trouvaient pas très à l'aise avec leur mari, et réciproquement, c'était une vie de galère, toute une vie de galère. Il leur restait à élever des enfants, faire les courses et la cuisine.
Y a-t-il un débat sur la suppression de la laïcité en France ?
Ah non. Alors là, franchement, s'il y en avait qui voulaient la suppression de la laïcité, je vous assure qu'il y aurait beaucoup de monde dans la rue. Et beaucoup de réactions. Pas suppression. Adaptation, modification, oui, mais pas suppression. Ça, c'est franchement, vous voyez, c'est fondamental la laïcité. C'est comme la République, c'est comme la démocratie. Il y a toujours des gens qui ne veulent plus de la démocratie, ne veulent pas de la République. Il y a aussi des gens qui ne voudraient pas de la laïcité. Ils sont peu nombreux et de toute façon, ça voudrait dire mettre vraiment à néant tous les fondements de cette société.
Pourquoi les témoins de Jéhovah peuvent exercer leur métier ?
Bon, parce qu'ils viennent chez vous comme quelqu'un viendrait faire de... Attendez, je ne veux vexer personne, donc je vais faire attention à ce que je dis. Ils viennent frapper à votre porte ou ils sont dans la rue et ils vous proposent quelque chose. Et bien, comme on viendrait vous proposer un livre, un aspirateur ou je ne sais pas quoi, si vous ne voulez pas, vous dites non merci, vous refermez la porte, c'est terminé. C'est tout. Donc ils ont le droit, hein. Ils ont le droit de professer ce qu'ils ont envie de professer à partir du moment où ils ne font pas de harcèlement, ils ne viennent pas vous empoisonner tout le temps. Vous dites non merci, ça suffit.
Que représente la laïcité pour vous ?
La liberté d'abord. D'ailleurs, vous savez, non, c'est là-bas, je vous montrerai. J'ai apporté pour votre centre de documentation ce qu'on a fait, ça a déjà été vendu à plus de 20 000 exemplaires. Et je vais le laisser pour votre collège. Voilà. Et vous voyez, c'est laïcité égale liberté. Et vous allez retrouver les définitions, vous allez retrouver les principales dates, et puis des textes, et vous pouvez travailler dessus. Alors.
Alors du coup, là, c'est intéressant, ce petit livret qui va être consultable par les élèves, mais également par le personnel adulte.
Ah ben oui, j'aimerais bien qu'il soit là d'ailleurs.
On est au sein d'un collège et que dans ce collège-là, cette laïcité, elle est vécue, elle est comprise, elle est acceptée par les uns, par les autres, par les élèves, mais aussi par les adultes. Et il y a toute une série de choses à respecter en tant qu'adulte enseignant. Et puis, il y a des constats aussi qui se font. Il y a des constats sur, aujourd'hui, des débats qui n'en sont peut-être pas, mais les sorties scolaires, par exemple, les réunions, les femmes, les mères voilées qui doivent retirer leur voile pour rentrer et que, finalement, ce n'est pas une privation de liberté à un moment donné, c'est une règle à respecter dans l'enceinte de cet établissement public de la République française. Ici, vous, dans vos interventions vers le public adulte, comment vous faites pour leur donner des indications de réponse aux questions qu'ils peuvent avoir par rapport à ça ?
La première chose, c'est le respect. Il n'y a pas de liberté absolue. Ouais, je sais bien à votre âge, hein, quand on vous dit « alors qu'est-ce que c'est que la liberté ?» Ouais, je connais les réponses. Qu'est-ce que c'est la liberté ? C'est ?
La liberté, c'est... faire à peu près ce qu'on veut sans déranger les autres.
Bon, en effet, si on dit c'est de faire ce que je veux, hein, je ne veux pas généraliser, mais quand on a votre âge, très souvent on dit la liberté c'est de faire ce que je veux. En tout cas, c'est ce qu'on renvoie aux parents. Oui.
Ce qu'on veut tout en respectant la loi.
Oui, et pas seulement la loi. Hein. Et je vous ai dit, il y a cette règle très importante qui est appliquée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la règle de la conciliation des libertés.
La conciliation des libertés, qu'est-ce que c'est ?
La conciliation des libertés ou la compatibilité des libertés, ça dépend de la langue dans laquelle on le dit. Si vous êtes sur une île déserte, Nico, sur une île déserte, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Personne ne viendra me reprocher ce que je fais.
Exactement. Mais à partir du moment où on vit ensemble, et vous avez fait, je crois, l'année dernière, quelque chose sur le vivre ensemble avec l'un de vos professeurs, ça veut dire tenir compte de la liberté des autres. Alors, quand vous voulez vous rendre visible dans vos vêtements, quand vous voulez imposer quelque chose dans la façon de manger, dans la façon de prier, dans la façon de mener votre vie personnelle. La question, c'est « et les autres ?» Je travaille, moi, avec une personne qui, dans son pays, ça va mieux maintenant dans son pays, mais il y a 15 ans, elle a été arrêtée par la police, qu'on appelait la police du mauvais voile. Il y avait 12 000 policiers dans son pays qui ne faisaient que la police du mauvais voile. Elle a été mise en prison. Mise en prison avec les prostituées. Parce qu'elle portait bien un voile, mais il n'était pas assez épais et il y avait des fleurs et ça ne se fait pas. Il fallait qu'il soit noir à l'époque. Elle a été torturée. Elle a pu s'évader avec une co-détenue. Elle a vécu 3 ans dans la clandestinité dans son pays. Elle a traversé les frontières, est arrivée en France. Aujourd'hui, elle est française. Elle est à l'université. Comment ? 45 ans. Elle est à l'université parce qu'elle enseigne. Mais par contre, vous avez raison. Elle a refait des études en français. Elle ne parlait pas le français. J'ai eu une autre amie qui... On lui a renvoyé de l'acide sur le visage. Elle a été défigurée parce qu'elle refusait de porter le voile. Ces personnes-là, comme les Syriens qui arrivent aujourd'hui, comme des Irakiens qui arrivent aujourd'hui, qui ont fui des persécutions, vous vous rendez pas compte, là, c'est quand même pas mal. Vous demandez des choses, parfois en provoquant. Moi, oui, quand on est adolescent, on aime bien aussi provoquer, pourquoi pas. Mais vous pouvez le faire. Ces personnes qui ont été persécutées, qui vivent maintenant en France, qui ont obtenu l'asile en France, vous n'allez pas les mettre dans les mêmes situations que celles qu'ils ont vécues dans leur pays d'origine. Donc les autres, c'est ça la compatibilité des libertés, c'est que les autres, il faut en tenir compte. Il faut prendre en compte la liberté des autres. Et ce n'est pas facile, et vous avez raison, historiquement, il y a toujours des gens qui veulent le pouvoir, il y a toujours des gens qui veulent imposer aux autres. Et donc, c'est un combat permanent d'arriver à un peu plus de liberté, etc. Et moi, je trouve qu'en effet, dans les pays dits démocratiques, les libertés, parfois, et l'égalité n'est pas exemplaire.
Prenons l'exemple d'une femme voilée qui se fait insulter dans la rue à cause du port du voile. Que peut-elle faire ou qu'est-ce que la loi prévoit ?
Bon, alors, dans la rue, vous avez le droit, hein ? Il y a deux choses dont vous n'avez pas le droit, c'est de faire de la provocation, par exemple, en vous promenant nu. Hein ? Ça vous étonne ? Attendez, je continue, décidément, ces questions-là, ça déclenche toujours des réactions. Bon. Non, on dira qu'il y a une atteinte à la pudeur. Bon, voilà. Donc, dans la rue, il y a deux choses interdites, soit porter atteinte à la pudeur des autres, par exemple en se promenant nu là dans la rue à Saint-Étienne, soit être complètement voilé en dissimulant son visage. Ça, c'est interdit. Et pourquoi ? Ce n'est pas une question de laïcité. Pourquoi ? Dites-le.
Parce qu'on est masqué et qu'on ne voit que nos yeux. Et d'habitude, ça peut représenter comme une cagoule ou un truc comme ça. C'est qu'on est trop masqué.
C'est ça. Que l'on ait un casque de moto, que l'on ait une cagoule. Par exemple, vous avez des manifestations qui manifestent en cagoule. Bon, l'idée, c'est que de pouvoir reconnaître. Pour que vous existiez en tant que personne, il faut qu'on puisse vous reconnaître. Donc, avoir un visage, un regard, un sourire, etc. Bon. À part ça, dans la rue, je continue, dans la rue, vous pouvez, d'ailleurs, entre nous, il y en a beaucoup, non ? Des femmes voilées. Bon. Donc, simplement, il y a parfois des attitudes qui vont avec, qui ne sont pas acceptables. Et je vous l'ai dit, quand vous êtes avec des personnes qui viennent de pays qui ont été persécutées parce qu'elles ne portaient pas le voile, ça peut les heurter. Ça peut vraiment créer des problèmes de sensibilité. Par ailleurs, nous sommes dans un pays où, historiquement, ce sont les femmes chrétiennes des premiers siècles qui étaient voilées. Je vous expliquerai ça. Bon, et donc on peut penser que c'est contraire à la liberté des femmes, que c'est un signe d'oppression. De là à insulter, non. Une femme qui est insultée dans la rue peut absolument aller en justice et justement demander à ce qu'il y ait condamnation pour une insulte. Insulte raciste, par exemple. Et le racisme peut évidemment être là, tout à fait. Elle peut être la personne qui a insulté pour être condamnée pour insulte raciste. Alors, le voile, ce n'est pas une obligation religieuse. J'ai fait 10 ans de droit musulman et j'ai travaillé avec des théologiens de la faculté Al-Azhar du Caire. Et Hassan II, qui était l'ancien roi du Maroc et qui est descendant du prophète et commandeur des croyants, comme on l'appelle, disait très bien, ce bout de tissu n'est pas du tout une obligation religieuse. Et même, je tiens quand même à vous dire qu'historiquement, vous savez que les premiers textes sur le voile, ça a été par quelqu'un qui a vécu, qui est né en 155 après Jésus-Christ, qui a été le premier théologien justement de la chrétienté à écrire sur les femmes et la religion. Il a fait vraiment un texte là-dessus. Il s'appelait Tertullien et il a dit, écoutez bien, ça va vous rappeler quelque chose. Les femmes doivent être pudiques. Et pour cela, elles doivent se couvrir la chevelure, les épaules et la gorge. Mais nous avions déjà cela dans le judaïsme. On le retrouve dans la chrétienté. Et puis après, on va le retrouver selon certaines périodes dans l'islam. Et à la fin du 19e siècle en Égypte, on faisait même de l'humour des théologiens, c'est-à-dire ceux qui étaient les docteurs de la loi à El-Azhar, disaient, il y a eu de très beaux livres écrits sur l'émancipation de la femme musulmane en Égypte à la fin du 19e siècle, en disant, mais je ne comprends pas, la pudeur, c'est vraiment une vertu. C'est une vertu. Et pas seulement pour les femmes, les hommes aussi. Et si les femmes, on demande aux femmes de se couvrir, ça veut dire quoi? On a peur qu'elles soient séduites quand elles sortent de la maison. Eh bien, messieurs, vous êtes trompés. C'était écrit en Égypte, au Caire, à la fin du 19e siècle, 1883. Vous êtes trompés, messieurs. Si vous ne voulez pas que vos femmes soient séduites, couvrez-vous. C'est à vous de vous couvrir, pas aux femmes. Elles ne vous verront plus et elles ne seront plus séduites.
Jacqueline Costalescu, bon, voudrait vous dire un dernier mot.
Je voudrais vous dire merci. Merci. Et vous avez posé des questions très intéressantes. On n'avait pas assez le temps pour en poser d'autres. Éventuellement, je pourrais revenir. Bon. Pour qu'on travaille plus là-dessus. Et ce qui serait bien, c'est qu'on le travaille avec les professeurs de langue. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça avec les professeurs de langue. Bon. Mais ce que je voudrais vous dire, on est dans un pays où ça va être à vous maintenant de défendre les libertés. Ça va être un pays dans lequel vous aurez aussi à défendre, vous, ce que vous pensez, vos convictions. Je vous le dis clairement, votre foi vous appartient. Ça fait partie de votre dignité. Votre foi vous appartient. Mais, respect. Vous respectez celle des autres. C'est ça. C'est-à-dire que à la base de la laïcité, il y a ces libertés, mais avec comme limite le respect de celles des autres. Et s'il vous plaît, avec l'égalité de nous tous, c'est pas facile, et notamment des filles et des garçons, des hommes et des femmes, et ce sera formidable, vous verrez, vous ferez une société nettement meilleure par rapport à la nôtre. Allez,
merci.
Au revoir.
Merci à vous.